Le miroir de Vénus, présenté par
Marilyn M.
Une émission sur
la femme
et ses tabous.
Je suis une femme. Et je te fais coucou.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir ce samedi en direct sur Radio Zinzine. Alors, le miroir de Vénus continue son thème de la sexualité féminine, toujours avec Carlotta Munier.
Bonjour Marilyn, ravie de te revoir.
Bah, moi aussi, je me disais qu'elle m'avait manqué, cette douce voix. Je crois que pour vous également. Alors, on va revenir sur cette sexualité féminine dont on a beaucoup de choses à dire, toujours. Ce que j'aimerais aussi redire, c'est qu'on, par rapport justement à ta pratique, il y a une pratique quand même beaucoup de tantra, etc. On va parler de la sexualité féminine, mais pas que d'un point de vue occidental, mais aussi d'un point de vue oriental. Concernant les énergies, etc., c'est plus... quoi, le tantra, c'est quand même un peu plus oriental.
Ah oui, c'est une tradition multimillénaire orientale, issue de l'Inde, où on aborde une sexualité plus féminine, mais dans le sens où on sort de tout ce qui est consommation, performance, objectif, but à atteindre, pour être plus dans le ressenti, dans les émotions, dans la présence à soi, la conscience, la relation, donc des dimensions qui sont plus féminines en soi, bien que les hommes et les femmes aient la polarité féminine et masculine chacun. Donc c'est vrai que la démarche du tantra invite à une sexualité plus féminine en termes de polarité. Oui, mais il y a de l'énergie, il y a de l'action, il y a du mouvement, bien sûr. Il n'y a pas que du doux et du tendre, il y a aussi de l'action. Mais on sort de tout ce qui est registre performance, volonté, orgasme à tout prix, etc.
Concernant l'orgasme, j'aimerais qu'on arrive sur un point, celui qui s'appelle le G.
Ah, le G.
Le point G. Une petite réflexion d'un psychologue qui m'a fait assez sourire, qui dit qu'il y a un grand fantasme autour du point G, qu'il faut interroger, puisque pourquoi nous voulons absolument qu'il existe, ce point G, ne dédouanerait-il pas la femme de la responsabilité de sa jouissance ? N'est-il pas là pour rassurer l'homme sur un mode d'emploi, ce fameux point G ? Alors, Carlotta, toi, qu'en penses-tu ? Point G, fantasme, réalité ?
Mais je trouve que déjà, rien que la question, la polémique est intéressante. Existe-t-il ? N'existe-t-il pas ? Mais pourquoi il faudrait ou il ne faudrait pas qu'il y ait un point G ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en ce qui concerne la sexualité féminine, on est vraiment à l'aube d'une découverte, d'une exploration, d'un monde extraordinaire et assez ignoré finalement, puisque pendant des siècles, elle a été interdite, ignorée, abîmée, niée, etc. On ne va pas revenir sur l'histoire. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'informations sur la sexualité masculine en termes d'études, en termes de nombre de pages écrites, et assez peu sur la sexualité féminine, sauf depuis 10-15 années. Donc on explore, on découvre, on interroge les femmes de plus en plus. Il y a de plus en plus d'études. J'ai envie de dire à ce sujet que les Canadiens et les Québécois sont bien plus avancés que nous en la matière. En France, on est encore un peu... on a un peu du mal à parler de tout ça. Mais il y a plein de choses à découvrir. Donc le point G, la polémique, pour moi, elle n'a pas lieu d'être, puisque il existe. Après,
où est-il ?
Alors, il est situé à peu près dans la face antérieure du vagin, à peu près de 3 cm de l'entrée. Il a une zone qui, on va dire, un peu en poire, allongée, et qui se termine, il a une longueur d'environ 3 cm. C'est difficile à dire parce que comme on a tous et toutes un nez différent, et ben on a tout un point G un peu différent, en fait.
Un vagin.
On peut le découvrir, le point G, parce qu'il a une surface qui est un peu différente, une texture qui est un peu différente du reste du vagin, et qui s'apprend, qui s'éduque, qui s'éveille par la stimulation, l'autostimulation, ou avec un homme à qui on apprend à stimuler. Mais chez la plupart des femmes, il est quand même relativement endormi. Voilà. Le point G est sensible plutôt à la pression et peut déclencher des ondes de plaisir, des gammes d'intensité assez fabuleuses, juste à l'apprivoiser au départ.
Qu'est-ce que tu veux dire par « il est caché » ? Au sens, tu me disais, il est caché pour le trouver, tu viens de dire, non ?
Et, je ne sais pas. Il est caché. C'est si on ne va pas explorer soi-même son vagin, on ne va jamais le trouver. Donc, dans ma pratique, que ce soit en individuel ou en groupe, ce que je peux expliquer, c'est que chaque femme est responsable et dépositaire de son désir et de son plaisir, et que j'invite les femmes à se découvrir, à s'explorer, seules pour mieux se connaître, pour mieux sentir ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, et après, ou pendant, guider l'homme. Parce que l'homme, il n'est pas fait pareil, de toute façon. Donc, il y a des hommes qui ont appris plein de choses et qui peuvent initier des femmes, et ça, c'est formidable. Mais attendre d'un homme qui sache comment on fonctionne, justement, sur quel bouton appuyer pour nous faire jouir, eh ben, faut pas rêver, quoi. L'homme, si on lui apprend pas, il le sait pas.
Et pour lui apprendre, donc, il faut avant tout explorer son propre désir, son propre plaisir.
Ben, explorer son corps, parce que pour moi, l'ensemble du corps peut être une zone érogène. Et chaque femme étant différente, elle aura des endroits qu'elle préfère, qui lui donneront plus de plaisir, des endroits où elle aime moins, une façon de la caresser, la toucher, qui va différer d'une femme à l'autre. Donc, si on dit pas à l'homme ce qui nous plaît, il peut pas l'inventer. Et la difficulté, il y a une deuxième difficulté, c'est que l'homme, ben, son sexe, il l'a devant lui depuis qu'il est tout petit, donc il le découvre en jouant, en se caressant, etc. Nous, en Occident, en France, on nous a jamais dit comment c'était, ou rarement. Heureusement, il y a des mères qui ont pu en parler à leurs filles, mais il faut qu'on aille l'explorer. Il faut qu'on en ait le désir ou l'envie à un moment d'aller voir comment c'est fait à l'intérieur, ne serait-ce qu'en touchant. Et après, pouvoir donc... dire ah ben c'est ça qui me plaît, c'est ça dont j'ai envie, et demander à l'homme. Ça passe par la communication, bien sûr.
Oui, mais ça passe aussi par dépasser des représentations sur une femme qui se caresse, puisqu'il y a encore beaucoup de représentations dans l'inconscient collectif ou dans l'inconscient seul d'une femme. De cette image de cette femme qui se caresse, qui se libre... Et sortir de cette culpabilité qu'on nous a inculquée depuis des générations et des générations, mais aussi par rapport à notre mère, hein, qui est normalement la femme qui devrait transmettre que sa fille, en tant que petite fille et future femme, a un vagin qui va pouvoir accueillir le sexe d'un homme, et qui va surtout être un lieu de plaisir, car moi je voudrais vraiment... insister sur cette notion-là, parce que je pense qu'on l'a perdu de vue dans cette société aussi judéo-chrétienne, hein, il faut dire ce qui est. Nous sommes un être de plaisir, notre vagin, notre sexualité est là pour nous faire jouir de la vie, pour nous faire prendre conscience de notre corps et de cette partie de nous-mêmes qui peut rentrer en relation avec l'autre pour faire quelque chose d'encore plus grand, encore plus beau, et qui est là pour jouir de cette vie.
Alors, il n'y a pas que le vagin, bien évidemment. Hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il y a un formidable livre qui est sorti il y a quelques années. J'ai malheureusement oublié le nom de la journaliste. C'est une femme qui avait un certain âge et qui a interrogé des femmes de tout âge, de tout horizon, de toute culture et milieu social. Et là, une bonne majorité de ces femmes-là ignoraient déjà ce qu'était le clitoris, où était leur clitoris. Et quand il y en a qui l'ont découvert, mais parfois tard dans la vie, elles ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a encore beaucoup de méconnaissances sur la sexualité féminine, sur l'anatomie féminine. Et comme tu dis, beaucoup de honte, beaucoup de croyances, parce que j'ai envie de dire, au Moyen-Âge, une femme qui prenait du plaisir, c'était une sorcière, ou elle était possédée par Satan. Quoi.
Elle était brûlée.
Et elle était, beaucoup malheureusement, ont été brûlées. Ouais. Donc le plaisir féminin a été interdit pendant longtemps, donc avec ces croyances que l'on porte de manière plus ou moins inconsciente, eh ben, c'est difficile, c'est un travail de les traverser, c'est un travail d'oser. Moi j'ai plusieurs femmes qui viennent me voir en consultation et pour qui la masturbation c'est encore extrêmement compliqué.
Oui, très, très difficile. Parce que justement, une réflexion que j'avais entendue la dernière fois à une conférence, quand on parle de libération sexuelle, libération féminine, donc des années 70, hein, de suite on se dit prête à tout, une sexualité débridée, prête à tout. Alors que non, c'est se rapproprier, c'est que la femme à un moment donné s'est rapproprié son désir et son corps. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de représentations, de représentations concernant la sexualité libérée. Par là, je veux dire par là que une femme qui s'autorise d'avoir plusieurs amants ou qui s'autorise une masturbation, de suite, c'est une représentation de femme, de la pute, tout simplement. Et encore, elle fait le métier. Quoi, si elle le désire, elle en fait ce qu'elle veut de son sexe. Mais en tout cas, une image extrêmement péjorative. Quoi. Une image qui a été salie depuis des millions d'années sur ce désir autonome de plaisir féminin. Mmh. Je trouve.
Alors, c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans les années 70 au niveau sociétal, au niveau de la libération de la femme, la contraception, le droit à l'avortement, une vraie place dans la société. Il faut juste savoir que le droit de vote, on ne l'a pas depuis très longtemps. Mmh. Hein, c'est au milieu du XXe siècle que la femme a le droit d'ouvrir un compte en banque à son nom, je crois, que depuis les années 60.
70.
C'est très récent. Mmh. Il y a 40-50 ans, je veux dire, c'est hier. Mmh. Donc, malgré cette libération des mœurs et de la sexualité dans les années 70, il y a comme aujourd'hui un retour en arrière. Il y a plusieurs mouvements. Il y a un devoir à l'orgasme véhiculé par les médias. Il faut jouir à tout prix. Il faut être multi-orgasmique. Ok, pourquoi pas, c'est possible. Mais entre le « il faut » et le « mais moi, mon désir, où est-il et qu'est-ce que j'en fais ?», il y a un gap énorme. Et à côté de ça, chez les jeunes, avec la pornographie qui est extrêmement accessible, y a des trucs assez graves qui se produisent, de jeunes femmes qui sont amenées à faire des fellations à des jeunes garçons, enfin je veux dire autour de 14-15 ans, ne serait-ce que pour avoir 10 euros. Enfin, il y a des trucs extrêmement graves qui se passent. Donc, et là-dedans, c'est difficile. À nouveau, on est en complète perte de repères.
Oui.
La femme de 40 ans se découvre, s'autorise petit à petit à s'approprier son corps et son plaisir. La femme plus âgée, c'est encore compliqué pour elle. La femme plus jeune, même si elle met des vêtements qui sont très très courts, où on lui voit une bonne partie de son anatomie, n'est pas forcément libérée pour autant. Parce que si elle peut avoir une sexualité débridée, est-ce qu'elle est dans la relation ?
Oui.
Est-ce qu'elle entre dans l'intimité ? C'est pas évident du tout. Et ça, c'est une vraie question.
Oui, l'intimité avec elle et l'intimité de l'autre. On va faire une première pause musicale justement en parlant d'orgasme. Je vais partager un orgasme avec vous, avec 5 hommes, de leur voix, de leurs mains. Ils arrivent à me faire partir, à me faire danser pendant des heures, puisque bien évidemment, je vous parle d'un orgasme musical. Et cela concerne donc ces 5 hommes de l'Ocor de la Plana et qui viennent là justement. Alors, ils fêtent leur nouvel album Marcha autour d'un apéro au stand de la région PACA, Babelmed, le vendredi 30 mars à 18h30. Donc, venez tous. Si vous voyez une folle en train de sauter avec le sourire jusqu'aux oreilles, ce sera moi. Et là, je vous enjoins. Donc, alors, si vous êtes tous les deux, si vous êtes deux sous une couette, laissez-vous emporter par le rythme parce que je l'imagine bien. Et si vous êtes à plusieurs, tenez-vous la main et commencez la farandole.
La Maïel, pas l'idol, pater noster, nous, non, non, vis à zen du mi, non, non, vis à zen, non, non, de du mi, mais l'ou, cousi, ta la 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 la, ta la 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 la. Calulu, novice des Zavio, trop pallano vien lui. Pour ta loulu, mais la candelo, qu'est trop pallano vien lui. Ta la 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 ta la 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 la. Camelu cappa la luga pa la fenestra, e te canta lu cuqueu. Ta giti du marido bobesti, come l'ora sa ciutandeu. Ta la 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 ta la 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 la. Un tonne le povero di Dio.
C'est le miroir de Vénus et c'était le corps de la plana. Alors ça, c'était la Noviota. C'était l'ancien album Tandemen. Donc là, actuellement, ils en ont sorti un deuxième. Donc venez l'écouter, il est aussi bon. Tiens, j'en profite pour faire un petit coucou à Guillaume Tamizier qui fait une émission sur la culture occitane qui s'appelle Boulégan sur Radio Zinzine, comme d'habitude. Donc alors je reviens à Carlotta, ma douce Carlotta, sur là je vais lire un petit extrait de Femme désirée, femme désirante, du docteur Daniel Flammenbaum, qui elle est gynécologue mais qui fait de la médecine chinoise. Elle a une approche transgénérationnelle aussi des problématiques femmes. Et je reviens sur je vais lire et voilà. Alors elle dit. Pour les hommes, l'excitation sexuelle se focalise d'emblée au niveau de leur sexe, alors que pour les femmes, elle commence au niveau des seins et du cœur pour descendre, se répercuter dans leur sexe. Voilà ce qui fait mieux comprendre le décalage entre le désir souvent immédiat de l'homme à pénétrer la femme et celui de la femme qui dépend du temps que mettent les énergies du cœur à investir son sexe. Donc ça, je voulais revenir là-dessus, donc au niveau des énergies, parce que à la dernière émission, tu avais dit la femme Désir par le cœur et l'homme... aime par le...
La femme a besoin d'être aimée, de se sentir aimée, donc être touchée au niveau du cœur pour pouvoir ouvrir son corps et son sexe à l'homme. Et l'homme montre à la femme qu'il l'aime par, en lui faisant l'amour. Okay. Donc, et ce que dit le docteur Flammenbaum, c'est tout à fait en ligne avec ce que l'on véhicule nous au niveau du tantra, c'est de relier ces deux dimensions-là à l'intérieur de nous pour pouvoir entrer en relation de manière plus pleine, entière, épanouissante avec l'autre. Donc voilà, d'être en phase à la fois avec sa dimension du cœur, donc dans l'ouverture du cœur, dans la présence à soi et à l'autre, et aussi dans la dimension sexuelle.
Mais je voulais revenir quand même sur ça, parce que quand tu disais ça, par rapport au cœur, en tout cas, moi, j'entends une femme, pour faire l'amour avec un homme, a besoin d'aimer.
D'être aimée.
D'être aimée, ou d'aimer. En tout cas, ça passe par le cœur. Je mettrais des moderato.
Oui, bien sûr.
Dans le sens où, maintenant, je pense que les femmes ont accès à une s'autorisent une sexualité sans nécessairement aimer le partenaire avec qui elles sont. Mais justement pour être dans le plaisir, dans le plus, tout simplement, elles ont envie de jouir, avoir du plaisir. Elles sont sorties de ces stéréotypes. J'aime pour coucher, il faut que j'aime. Elles ont une sexualité, on va dire, un peu plus participative, active, tout simplement. Et c'est pour ça que je revenais sur. Les énergies au niveau de... Effectivement, après, au niveau énergétique, nous, la femme, on met un peu plus de temps à rentrer, à être excitée, à être dans notre désir, tandis que l'homme a quelque chose, a une pulsion par rapport aux énergies beaucoup plus, rapide par rapport à son sexe.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi que sortons des généralités et de « il faut que la femme que, pour... » faire l'amour, il faut qu'elle soit aimée et qu'elle aime, bien évidemment. Je ne parle pas forcément du sentiment amoureux. Ce dont je parle, c'est de la relation. Mm-hmm. C'est-à-dire d'être vraiment avec une autre personne ensemble. Mm-hmm. Voilà. De manière à ce que y a un minimum de relations, d'entente, d'échanges, de paroles, de communication pour pouvoir partager un moment physique, de plaisir, de jouissance avec l'autre. Hein, il ne s'agit pas
D'écarter la consommation.
De la consommation et d'écarter les jambes. Ouais, il faut qu'il y ait un minimum d'attention, de présence à soi et à l'autre pour qu'on puisse avoir un moment d'échange et de partage. C'est ça, la sexualité.
Oui.
Donc, je parle de relation, effectivement.
Oui, tout à fait. Mais le problème aussi, c'est que il est très difficile de rentrer, de dire à quelqu'un je te désire, quoi. Justement, Marichou Ramanjac, qui a son spectacle Chronique d'une croqueuse, en parle dans son spectacle sur le désir de la femme. Je te désire, mais par contre, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie qu'on ait une rencontre sexuelle avant qu'elle soit intellectuelle ou mentale, mais au moins que quelque chose puisse se passer entre nous. Et ça, c'est encore très difficile d'arriver avec cette parole-là. C'est aussi très difficile, je pense, aux hommes de recevoir cette parole-là qui peut encore, pas encore, j'allais dire, parce que elle est nouvelle, cette parole, qui peut faire peur, tout simplement. En tout cas, moi, par rapport à certaines expériences que j'ai entendues autour de moi, si on arrive comme ça auprès d'un homme, il peut avoir soit peur, ou soit on est catalogué sur péjorativement quoi. On se dit celle-là, elle pense qu'à ça et il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors que c'est ça qui est très difficile dans ce désir féminin qu'on s'est enfin réapproprié, c'est que on doit aussi combattre cette peur, l'inconnu que ça génère aussi chez les hommes, quoi, complètement perdu devant cette femme enfin qui accepte son plaisir, son désir et qui veut le partager. Nous en tant qu'initiatrices, c'est difficile. Il a des difficultés à sortir de la relation mère-enfant, de voir une femme dans son entité, dans sa liberté d'assumer son désir et de vouloir le partager avec lui, tout simplement.
Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr que ça peut faire peur à des hommes. Parce qu'il y a une histoire aussi. Il y a tout un passé derrière nous qui ne rendait pas la chose même concevable. Et je trouve qu'une femme qui ose dire à un homme qu'elle le désire, c'est magnifique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont coucher ensemble tout de suite. Ça ne veut pas dire même que ça arrive. Déjà, nommer son désir, c'est beau. Et c'est bon, parce que ça veut dire le reconnaître à l'intérieur de soi, qu'on a du désir et que cet homme que l'on regarde, avec qui on est, fait naître ça à l'intérieur de soi. Et il n'y a rien d'obligé derrière. Et l'homme peut effectivement soit avoir peur, soit se dire « bon bah c'est super, c'est un bon coup, voilà, on va tout de suite pouvoir aller dans la chambre ». Non, c'est intéressant de sentir et de ralentir. C'est pas parce qu'on nomme son désir qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout.
Oui.
Voilà. Juste, on peut goûter ça et l'homme peut petit à petit recevoir cette parole-là et dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que ça me fait ?» Et là, il y a déjà un partage.
Oui.
Voilà. Et puis, on verra après, plus tard. Sortons des projets de qu'est-ce qu'on va faire dans 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, 3 heures. Restons au présent. Le désir, il se vit dans le présent. C'est le corps qui appelle quelque chose, cela s'éveille dans notre corps. Au présent, alors initié par je sais quoi, peut-être quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, auquel on a pensé. Le désir, il n'est pas rationnel, il a émergé là. Bon, ben, pouvoir le nommer, c'est magnifique. Et rien que le goûter à l'intérieur de soi, c'est une expérience super.
Oui, parce que il n'est pas si... c'est pas tous les jours qu'on désire quelqu'un ou... Quoi, quelque chose, si. Mais alors, quelqu'un puisse nous émouvoir, quoi, en tout cas éveiller notre désir, c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Ce serait merveilleux si ça pouvait exister. Mais c'est quand même quelque chose de précieux, moi, je trouve, ce désir qui est réveillé par l'autre personne. Et effectivement, pouvoir échanger dessus et qu'on puisse le nommer et que cela puisse être entendu et accueilli avec bienveillance et partage, c'est quelque chose qui serait effectivement, qui est effectivement très très beau.
Bah, dans une relation à deux qui entre dans la durée, le désir, il peut s'émousser, il peut s'endormir, il peut diminuer, parce que il s'entretient, le désir. C'est quelque chose que... Il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton pour qu'on ait envie de faire l'amour avec la personne avec qui l'on vit. Le désir, il se nourrit d'espace, il se nourrit de surprises, il se nourrit d'attention, d'intimité, de regard, de plein de choses. Et malheureusement, dans les vies très trépidantes et chargées qu'on mène actuellement, où on doit mener de front souvent son travail, les enfants, la tenue d'une maison, des déplacements professionnels, enfin tout un tas de contraintes, il n'y a pas beaucoup de temps pour se poser et pour sentir « Ah bah tiens, comment je suis là ? Quand je regarde mon compagnon, ma compagne, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je sens quelque chose ?» Voilà. Pour sentir le désir, pour qu'il émerge, il faut un petit peu s'arrêter aussi.
Oui.
Parce que si on est toujours dans la tête et dans l'action, notre corps, il n'y a plus de place. Donc le désir non plus.
Il faut revenir vers soi, sentir ses émotions. Oui, c'est vraiment un instant vers soi, pour soi.
Oui.
Tout à fait. La dernière fois, j'avais dans une revue, il parlait des sites de rencontres sur Internet et était observé que maintenant les couples se rencontraient plus sur le mode, on va dire, de la sexualité pour pouvoir après rentrer dans le lien. C'est-à-dire que pour eux, c'était beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un et de se dire bon, on va se rencontrer pour faire l'amour, pour faire pour aller directement au sexe, on va dire, que de se positionner en disant voilà, je recherche le prince charmant ou ma princesse, et d'arriver avec tout notre on va dire la le cahier des charges ou à décharge de ce que l'on est et de ce que l'on veut. Et donc, paradoxalement, à travers le sexe, il y avait des relations qui se faisaient, quoi. Ils rentraient en relation, mais après, parce qu'ils ne se mettaient pas la pression d'entrer. C'était pas quelque chose de... Donc j'ai trouvé ça intéressant d'observer ça. Je fais tiens, c'est effectivement c'est moins contraignant d'arriver comme ça en disant bah tiens, ce que je veux, c'est une petite aventure, et on ne se met pas la pression, on ne met pas la pression sur l'autre, et après, si le lien se fait, se fonde, si les personnes s'entendent bien, hein, tout simplement, s'ils ont des points de vue, quoi, des points de vue, ça j'en sais rien, mais en tout cas, s'ils s'entendent bien, s'ils s'aiment, s'ils commencent à s'apprécier, bah, là, ils envisagent la relation. Mais encore, quoi, c'était tout ça pour dire que c'est très 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 difficile de rentrer en relation avec l'autre en se positionnant comme attendant une relation, quoi. Parce que alors, Carlotta me fait des gros yeux. Que veut-elle dire? voilà, quand on arrive en tant que célibataire, mm-hmm. on a, moi je dirais, beaucoup plus de difficultés à être avec l'autre en se positionnant, voilà, bah, je suis célibataire, bon, donc de suite, bon, bah, celle-là... où elle attend, elle veut être avec quelqu'un, elle veut... je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on a des difficultés à se rencontrer, parce que je sais pas, il y a des milliers, des millions de célibataires en France, et il y a des millions de femmes belles, intelligentes, merveilleuses, et des millions d'hommes beaux, intelligents, merveilleux, n'est-ce pas Fabrice? Et voilà, on est célibataire et on ne rencontre pas l'autre. Et j'ai l'impression qu'on véhicule dans ce célibat une grosse peur de tout possible ou de tout impossible. C'est très, très étrange, je te partage donc cette réflexion, Carlotta. Je ne sais pas si ça te...
Mais la relation, ce n'est pas simple. Hein. La relation déjà avec soi n'est pas toujours facile. Mm-hmm. Et puis la relation avec l'autre non plus, puisqu'on rentre dans... on est chacun différent, on a une histoire de vie différente, des croyances différentes, des systèmes de référence différents, une éducation différente, etc. Donc, être en relation, ça veut dire apprendre à connaître l'autre, apprendre à partager, apprendre à dire et à entendre, et voir comment on peut cheminer ensemble au fur et à mesure de nos découvertes, et puis bah, parfois de nos différences, voire nos incompatibilités. Le prince charmant et la princesse, il faut laisser tomber. Moi, des fois où je me dis, je ne comprends pas pourquoi enfin on nous raconte des contes de fées, parce que bah, ça met les jeunes filles ou les jeunes femmes, les futures jeunes femmes, dans une quête impossible, parce que la personne parfaite n'évolue pas. Et c'est toujours un ajustement au fur et à mesure d'une relation qui se fait, peut-être pas à chaque instant, mais en tout cas à chaque événement de la vie. Et c'est jamais gagné. C'est jamais gagné. Même le sentiment n'est pas forcément un sentiment à vie. Voilà. Et il y a aussi un autre point qui est intéressant, c'est qu'on on a une biologie. On a une biologie, donc la rencontre par la sexualité peut se faire aussi parce qu'on a un appel biologique. On a des hormones, on a des pulsions, on a des attirances, donc pourquoi pas, hein, on est des humains certes, mais aussi, même si je mets plein de guillemets là-dessus, on a une part animale. Enfin, on n'est pas des animaux, mais on a quand même une part animale pulsionnelle et biologique qui est présente. Donc c'est probablement plus facile de se rencontrer déjà par la sexualité, sachant que dans la relation qui entre dans la durée, une sexualité épanouissante est un ciment dans la relation, et une sexualité malade va mettre le couple en difficulté. Et pourquoi pas, au fur et à mesure de nos rencontres sexuelles, intimes, physiques, et ben, commencer à apprivoiser l'autre, à s'apprivoiser en contact avec l'autre, et tisser des liens qui vont créer quelque chose d'une belle aventure, qu'elle soit courte ou longue, peu importe.
Oui, et pour cela, il faut prendre des risques. Et les risques dans notre société actuelle, où c'est plutôt une société d'assurance, c'est assez difficile. Donc, alors, on va faire une deuxième pause musicale. Alors, cette deuxième pause musicale, ça va être bah, une future invitée hein, qui viendra sur la sexualité féminine à travers l'art. C'est le groupe M-Bass. Donc M-Bass, c'est un duo voix et basse. C'est Emma et Stéphane Paulin qui vont... Alors M-Bass, s'intitule de la poésie saturée parce que Emma est une poétesse de littérature érotique. Et nous allons entendre Fée.
Entre toi, je m'ajuste à ta vigueur. Tentation désorientée, pas à mon sexe déjà noyé. Vers mon palais prometteur, pas de timidité. Si je m'attarde à ton extrémité, au repli de ta peau ourlée, des nœuds de ta forme oblongue, je commence à te butiner. We'll be right back.
Et oui, c'était un basse. Alors, là, on va revenir donc sur le désir féminin et sur les blocages du désir féminin, comment il s'exprime. Souvent, c'est la non-parole de l'affirmation de son sexe, les maladies que j'aime bien dire le mal a dit à travers les maladies. Et j'aimerais donc lire quelques réflexions à partir de cela. Et après, tu me diras ce que tu en penses, Carlotta. Donc là, c'est donc toujours sur le bouquin « Femmes désirées, femmes désirantes ». Donc les flèches indiquent que l'énergie sexuelle féminine est une force qui appelle, accueille et reçoit les forces sexuelles du partenaire à l'intérieur de notre corps, dans le petit bassin. En cas de mauvaise construction sexuelle, notre image du corps n'a pas l'information qui permet à l'énergie de circuler au bon endroit. Soit l'énergie se concentre au niveau du système urinaire, le sphincter de l'urètre, la vessie ou même les voies urinaires supérieures, et elle provoque cystite, urétrite, phyélonéphrite, traduisant que notre corps ne sait pas qu'il a un sexe, un vagin, un utérus. La femme reste une pisseuse. Il me fait rire quand on dit ça. Soit l'énergie est présente, diffuse et s'agite sur place, procurant des inflammations de la vulve, des vulvites qui traduisent que l'énergie ne sait pas qu'elle doit aller à l'intérieur du corps. C'est alors comme si le sexe était toujours celui d'une petite fille, n'existait qu'en surface, n'était pas invaginé pour accueillir le sexe du partenaire. Soit l'énergie sexuelle est présente aussi dans le vagin, mais ne sachant pas qu'elle doit circuler plus à l'intérieur dans l'utérus et dans tout le corps, elle stagne, s'agite sur place et alors les frottements frottent, provoquant des vaginites qui grattent et brûlent des mycoses. Toujours avoir à l'esprit que ces troubles sont l'expression du désir.
Alors, c'est intéressant quand il y a un symptôme, une maladie, quelque chose qui se produit surtout dans la région urogénitale. Bien sûr, il s'agit d'aller consulter un gynécologue, un médecin spécialisé pour soigner d'abord l'infection, puisque là, il s'agit la plupart du temps d'inflammations ou d'infections. Mais peut-être cette maladie a quelque chose à dire de l'histoire, qu'elle soit passée ou qu'elle soit dans le présent. Donc c'est intéressant quand on peut travailler en collaboration avec des médecins d'aller un peu plus loin que uniquement soigner le symptôme, parce que si on ne fait que soigner le symptôme, il risque de se reproduire puisque la cause ou l'histoire n'a pas été regardée. Donc moi j'aime assez l'approche du docteur Flammenbaum par rapport au sens qu'on peut donner aux maladies et à ce qu'elle en évoque au niveau de l'énergie. Moi, j'ai une hypothèse que je partage avec quelques confrères sexologues et sexothérapeutes aussi, c'est que la panne de désir, l'absence de désir, le non-contact avec son désir, est bien souvent quelque chose qui a un lien avec la non-expression de la colère ou de l'agressivité. L'agressivité, pas la violence, l'agressivité dans le sens je vais prendre, je vais chercher, je vais dire, je vais aller vers, donc plutôt sur le sens étymologique, agressere, aller vers l'environnement. Et les maladies symboliquement en décodage biologique, les maladies en IT, donc toutes celles que tu as citées, ce sont des maladies de la colère, donc une colère non exprimée, une colère rentrée, etc. Et un des chemins en thérapie que je propose, c'est de faire travailler ces femmes qui sont en panne de désir sur mais où est leur colère ? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit ? Qu'est-ce qu'elles n'ont pas pu exprimer à un moment ou à un autre dans une relation présente ou passée, qui fait que la colère est tellement retenue, ravalée, rentrée à l'intérieur de soi, que elle va se mettre quelque part.
Oui.
Ça va chauffer quelque part. Et du coup, il n'y a plus de place pour le désir. La colère. Dans le cerveau, les aires du désir et les aires de l'agressivité sont extrêmement proches. Donc ça participe un petit peu du même phénomène. C'est le désir, c'est l'énergie. C'est le désir pour une femme, c'est l'envie d'être pénétrée, c'est l'envie de recevoir. Notre désir, il est en creux. Donc si l'agressivité est en panne, le désir aussi risque d'être en panne. Donc on a à travailler justement là-dessus. Et du coup, y a plein de symptômes qui peuvent diminuer parce qu'on va pouvoir faire s'exprimer d'une manière appropriée la colère ou l'agressivité qui a été longtemps rentrée à l'intérieur.
Notre sexe nous parle.
Oui.
Nous parle de nos émotions, qui stagnent, qui se sont ancrées. Et comment on fait alors ? Ça passe par la parole, nécessairement, travail sur le corps aussi, la respiration, quoi, parce que voilà, il y a la parole, parce que la thérapie c'est bien, mais à un moment donné ça fait pas tout. Je pense que il doit y avoir aussi un travail. Moi je suis pour les deux thérapies du corps et de la parole.
Alors moi j'ai une approche qui est multi-référentielle, mais qui est aussi holistique, c'est-à-dire que bien sûr il va y avoir du verbal, il s'agit de comprendre un petit peu une histoire, de faire nommer des choses, et de, à partir de ce que je peux entendre d'une cliente, de moi voir, tiens, ça me fait penser à quoi, quel lien je peux tisser entre différents éléments de son histoire. En même temps, c'est extrêmement important pour moi d'explorer tout le champ émotionnel et le champ du corps. En sexothérapie, on va passer par les émotions et le corps. Les émotions qui ont été bloquées, qui n'ont pas pu être exprimées, il peut y avoir parfois des vieilles histoires avec des chagrins, la tristesse, qui ont tellement été mis sous le couvercle que ça va bloquer toute autre forme d'expression. Donc on va aller voir l'émotion et on va aller voir le corps. Il y a beaucoup d'exercices et de protocoles en sexothérapie pour déjà apprendre à respirer. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas une personne qui ne va pas à un moment ou un autre dans mon cabinet faire un exercice de respiration. C'est parce que ça se passe dans le corps. La respiration permet de nous faire revenir au présent. Et notre corps, il vit au présent. On va travailler sur les sensations. On va travailler sur les ressentis. On va faire des exercices aussi, beaucoup justement au niveau du désir, sur le périnée et la contraction du périnée et du vagin. Parce que, comme je l'ai dit il y a un instant, notre désir, il est en creux. Il est dans l'envie d'être comblé par un homme, un sexe masculin. Enfin, je ne veux pas non plus rester dans un regard exclusivement hétérosexuel, hein, bien sûr. Donc, travailler sur le périnée...
Il y a plein d'objets.
Oui. Sur le périnée avec des contractions, des relâchements, des exercices de ce genre-là, ça va faire prendre conscience aux femmes de leur creux vaginal. Et ça va faire de l'espace. Et ça va faire comme un appel. À partir du moment où je sens comment je suis à l'intérieur de moi, il peut s'ouvrir quelque chose. Et beaucoup de femmes n'ont pas conscience de cet espace-là, sauf les mères qui ont une rééducation périnéale, mais qui est bien souvent insuffisante, et en tout cas pas du tout dans la même optique, puisque la rééducation périnéale, c'est pour retonifier un plancher pelvien suite à un accouchement. Moi, mon optique, elle n'est pas que médicale, elle est au niveau du plaisir, de l'orgasme, du désir. Et puis on va mobiliser le bassin aussi, parce qu'il y a plein de... toute la sphère urogénita, je vais y arriver, est un tressage de muscles et de nerfs, et des nerfs qui partent de la zone génitale et qui vont rejoindre différentes vertèbres dans la colonne vertébrale et qui vont arriver jusqu'au cerveau. Donc c'est important, en travaillant sur la mobilité du bassin, de mettre en mouvement ces nerfs, d'étendre les muscles, de sentir tout ce qui se passe, de gagner en fluidité, en souplesse, ne serait-ce aussi que pour, dans l'acte sexuel, avoir plus de mobilité, avoir notre corps qui rentre dans le mouvement, qui est là, présent, en relation avec un ou une autre. On va beaucoup travailler, parce que notre bassin, il est souvent plein de tensions. Les femmes, on passe notre temps à rentrer notre ventre pour pas que ça soit vu. Et voilà, moi, je vais la faire travailler sur la respiration, sur bouger, sur danser, sur respirer, pour redonner de la place aux ressentis, aux sensations, au corps, et s'approprier ce corps de femme et ce sexe de femme, sans cette réappropriation, on ne peut pas sentir vraiment le désir.
Oui. Se reconnecter à soi, à son intériorité et surtout à son sexe.
Oui.
Une troisième pause musicale avec Hélène et Martin, Hélène Garrigue, notre belle Hélène d'Aix-en-Provence où vous pouvez la rencontrer régulièrement, drôle d'endroit, pour vous pouvez l'entendre plus exactement, je vais y arriver. Et Hélène est obsédée.
Je fus élevée chez les religieuses, d'une rigueur à nulle pareille. On m'apprit à baisser les yeux et à me boucher les deux oreilles. Mais une pensée vient me tracasser depuis que j'ai l'âge de demoiselle. Plus je fais d'efforts pour la chasser, plus elle s'installe dans ma vie. j'ai des idées. Quand je vois un homme sur le trottoir, au Batignolles, à la Bastille, dans l'autobus, matin ou soir, par la pensée je le déshabille. Mais comme j'ai de l'éducation, je lui laisse son chapeau sur sa tête. Et aussi par compensation, son parapluie et sa serviette. Je suis une femme vertueuse, mais obsédée. Dans le fond, je suis une voluptueuse. J'ai des idées. Quand vous dites que je peux chasser cette manie un peu vicieuse, mais pas du tout, je dois vous avouer que de plus, elle est contagieuse. Regardez, mesdames, vos voisins, pensez comme moi, ça vous sourit. Poitrine velue, des tas de machins, leur chapeau et leur parapluie. Je suis une femme vertueuse, mais obsédée. Je mène une vie affreuse. J'ai des idées.
Et oui, c'était Hélène Garrigue, les chansons françaises que votre iPod refuse, sauf celui d'Olivier. Donc c'était Hélène et Martin, et c'était Je suis obsédée de Carte Sixte. Alors on arrive bientôt à la fin, c'est fou ça, ça passe trop vite. Hein. Ouais, on a toujours peur de ne pas savoir quoi dire, et en fin de compte, ça passe trop vite. Je voulais revenir aussi sur une problématique qu'ont souvent les femmes, je trouve, qui est énoncée donc toujours dans ce fameux bouquin Femmes désirées, femmes désirantes, que les femmes aiment les hommes comme elles aiment leur mère. C'est-à-dire qu'elles, on est dans une recherche d'amour, mais comme évidemment l'amour, le premier amour et le premier lien qu'on a vu, qu'on a eu, c'est le lien avec la mère. Et donc, on a du mal à sortir en tant que femme de cet amour fusionnel à la mère. Et on n'est pas dans une rencontre, vraiment dans un amour sexué de deux sexes différents qui font justement prendre en compte justement notre sexe et notre sexe de désir, de plaisir, et qui est là pour rencontrer le sexe de l'autre, non de l'homme, non pas que... en tout cas le sexe de l'autre, non pas que les bras de maman ou la rassurance de maman. Je pense qu'il y a... nous, les femmes, on a du mal à sortir de cet idéal d'amour, limite sans sexualité, quoi. Et par moments, effectivement, des femmes se marient et hop, elles n'ont plus de désir parce que elles ont eu l'homme, leur statut, le mariage, et elles se sentent... Qu'en penses-tu ?
C'est complexe ce que tu évoques, parce que est-ce que les femmes aiment les hommes comme elles ont aimé leur mère ? J'en sais rien. Et puis on pourrait aussi dire que les hommes cherchent dans leur femme une mère.
Oui. Le problème, c'est ça.
Voilà, les femmes cherchent dans les hommes des pères aussi. Donc ce qui est intéressant, moi je trouve à regarder, c'est que inconsciemment, dans la répétition, on rejoue avec sa compagne ou son compagnon des vieilles histoires qu'on a eues souvent avec nos parents, nos éducateurs, en tout cas des figures importantes de notre enfance. Donc, quand il y a des vieilles histoires qui n'ont pas été réglées, nous n'avons de cesse que d'essayer de les rejouer pour les régler. Or, c'est un cheminement fréquent en thérapie, c'est de, dans la relation à l'autre, d'essayer de faire le tri entre qu'est-ce qui se passe ici et maintenant entre l'homme et la femme, ou l'homme, la femme, et qu'est-ce qui est du ressort d'une vieille histoire. Parce que si on imagine, et c'est bien souvent le cas, que l'autre est là pour répondre à tous nos besoins comme notre mère était censée le faire,
oui,
et notre mère a certainement fait du mieux qu'elle pouvait, mais elle ne pouvait pas y répondre parfaitement. D'abord, elle n'était pas à l'intérieur de nous. C'était plutôt nous qui étions issus d'elle. Et la parole de l'enfant s'exprime qu'au fur et à mesure qu'il grandit, et il n'a pas forcément conscience de ses besoins. Donc, la mère n'a pas forcément répondu de manière la plus ajustée aux besoins de l'enfant, petite fille ou petit garçon. Et il ne s'agit pas de lui faire porter la culpabilité, puisque je le dis, elle a fait du mieux qu'elle l'a pu avec son histoire. Mais du coup, on va garder des empreintes, des manques, des vieux machins qui n'ont pas été satisfaits ou qui ont été des souffrances. Donc, on va faire rejouer à la personne avec qui on vit ou qu'on rencontre le rôle de satisfaction de nos besoins. Et c'est là où il y a un gros tri à faire. Est-ce que c'est un besoin qui vient du présent ? Est-ce que c'est un besoin qui vient du passé ? Auquel cas, peut-être, on peut aller le réparer, le nourrir en thérapie. Ou est-ce que c'est un besoin qui doit être nourri par quelqu'un d'autre encore ? Voilà, on va aller mettre à jour nos besoins et voir comment on va les satisfaire. Et il y a tout un tas de besoins qu'il est important d'apprendre à satisfaire par soi-même. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'indépendance, il s'agit de rentrer dans l'autonomie. J'ai un besoin, qu'est-ce que j'en fais ? À qui je demande de le satisfaire ? À moi-même, à mon homme, ma femme, un ami, un copain, etc. J'en sais rien. Mais de prendre conscience de ses besoins et de prendre la responsabilité d'aller les satisfaire tant que faire se peut. C'est ça l'autonomie.
Oui. Oui, j'ai bien aimé la différence entre l'indépendance et l'autonomie, tout à fait. Parce que c'est comme ça aussi que certains hommes et certaines femmes voient cette autonomie comme une indépendance et quelque chose d'assez péjoratif. Alors que quand on est en lien avec l'autre, obligatoirement, l'autre nous renvoie des choses. Et en tout cas, c'est la meilleure façon de connaître son histoire à travers l'autre, puisque c'est l'autre qui nous renvoie tellement de choses. Et c'est là où il faut vraiment être très prudent, on va dire, quoi, très... Et aussi clairvoyant, c'est pas évident, parce que quand on est pris par l'amour, par ce sentiment qui... Et puis voilà, le désir, etc., on n'arrive pas justement à dissocier ce qui nous ramène au lien, à nos liens antérieurs papa-maman, quoi, les choses, le premier lien, et la personne qu'on a en face de soi. Par moment, voilà, c'est un peu le coup de foudre, quoi. À la fin du coup de foudre, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on avait projeté énormément de choses sur cette personne-là, et en fin de compte, on l'a jamais regardé vraiment, on n'a jamais vu son être profond, quoi, que ça n'a été que projection d'un désir incommensurable de ce que l'on aimerait que l'autre soit, quoi. C'est terrible.
On dit que l'amour rend aveugle.
Et oui, c'est pour ça qu'il faut être.
Ben c'est ça qui est. C'est bien souvent ce genre de difficultés qui amènent les couples en consultation quand ils arrivent me voir. Souvent, ils sont donc en grande difficulté, voire en conflit. Et donc, un des chemins pour les accompagner, pour les aider, c'est d'essayer de voir un petit peu quel est leur processus relationnel et qu'est-ce qu'ils font jouer l'un à l'autre et qu'est-ce qu'ils rejouent ensemble de leurs vieilles histoires respectives. Et quelque chose qui peut être difficile, qui peut être douloureux, ou qui peut créer provoquer des relations assez douloureuses, insupportables à l'intérieur de soi, c'est que l'autre, sans le savoir dans la plupart des cas, a appuyé sur un bouton qui vient réveiller un vieux truc.
Oui.
Et il s'agit, voilà, c'est ça le tri qu'il y a à faire. Parce que plus je vais faire le tri dans mon propre histoire, à travers ces jeux de projection bien sûr, plus je vais pouvoir me sentir plus à l'aise et regarder l'autre tel qu'il est, plutôt que de voir une projection de mon passé ou de moi-même sur l'autre. Et ça, c'est un cheminement à la fois extrêmement riche. Pour moi, le chemin du couple est un chemin de connaissance de soi et de croissance très fort, mais difficile. Puisque oui. L'autre, c'est un autre qui est différent. Et oui. Forcément, toutes nos interactions vont créer à la fois des choses magnifiques et à la fois des difficultés.
Moi, oui, à chaque fois, j'essaye à chaque fois que je touche une émotion, plus négative que positive, je me dis, elle réveille, quelle émotion réveille-t-elle, quoi ? Qu'est-ce que l'autre est venu réveiller ? Et c'est bien de bon, on trouve pas nécessairement la source, hein, on n'a pas nécessairement les réponses, mais en tout cas, faut voilà toujours essayer de dissocier quand même ce que l'on ressent, mais après c'est pas évident, hein, entre ce que l'autre nous renvoie vraiment et ce qui est attaché à notre passé, mais bon, tout ça c'est bien compliqué, mais en même temps c'est ce qu'on appelle une très très belle aventure, hein, c'est la plus belle des aventures, d'essayer de se découvrir avec l'autre, quoi. C'est moi, je trouve ça merveilleux. Donc alors, malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission.
C'est passé vite.
Oui, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, Carlotta. Hein, tu es venue deux fois. Tu reviendras, merci. Parce que le sujet est sans fond et sans fin. Hein.
Avec plaisir.
J'espère vraiment te revoir. Tu vas peut-être... t'as des dates de conférences ou elles sont passées là ?
Alors, les conférences auront lieu en mai et juin. Donc, il y a 5 conférences de prévues tous les jeudis soirs, sauf le 21 juin que je réserve pour la fête de la musique, qui auront lieu à l'atelier de soi, donc 27 rue Fernand Dol, à Aix, bien sûr. Donc... une conférence sur la sexualité féminine, dont on a beaucoup évoqué d'éléments aujourd'hui, la sexualité masculine, le couple, l'intimité et la sexualité, les ados et la sexualité, et la dernière conférence sur le tantra.
D'accord. On peut un site internet
www.claire-de-femme.com.
Alors moi sinon, prenez vos agendas tous, j'ai 2 dates à vous donner. Donc la prochaine date du Miroir de Vénus, c'est une émission exceptionnelle, quoi, spéciale musicale, parce que je vais recevoir le groupe Isaiah. Alors Isaiah, c'est Caroline et Jessica, hein, ceux qui sont sur Aix les ont souvent vus, c'est deux jumelles, deux merveilleuses jumelles blondes, qui font un mélange de bluesgrass, de folk et d'envolée vocale irlandaise. Alors elles viendront samedi prochain parler de leur EP. Alors EP, c'est 5 titres, qui s'appelle I Get You Back. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve samedi prochain. Et sinon, la prochaine émission du Miroir de Vénus concernant la sexualité, ce sera le 21 avril à 14h. Alors là, il y aura plutôt un angle sociologique, avec Jérôme qui a fait une étude sur la transsexualité et qui nous parlera de la tension entre corps sexué et genre énorme.
Vaste sujet.
Et, ouais. Et il sera assisté de Justine, qui est elle réalisatrice et chargée de prod audiovisuelle et cinématographique et qui a étudié un peu la sexualité dans les médias. Donc je pense que ça va être une émission très riche et très intéressante également, donc le 21 avril. Et alors, j'ai entendu plein de fois, là je vous ai entendu, vous les femmes qui ont dit « Mais non, la sexualité féminine, ce n'est pas qu'une sexualité avec un homme. » Mais je vous ai entendu, mes louloutes d'amour. Je le sais que la sexualité féminine peut se partager avec une autre femme. Donc à toutes mes lesbiennes préférées, je vous envoie un gros bisou, je pense à mes louloutes. Et je vous mets ce titre d'Anaïs, elle me plaît.
Je tombe des nues, je suis perplexe, et me voilà dans de beaux draps. Je sais, est-ce la faute de la Bex? Si je suis tombée dans ses bras, elle me plaît. J'écoute ce qu'elle...
Alors c'était Anaïs, elle me plaît. Alors évidemment, il y aura une émission hein, sur la sexualité féminine, quoi, l'homosexualité. Toute une émission qu'on fera, il n'y a pas de souci. Alors je vous dis au revoir, je vous redonne le nom du blog du Miroir de Vénus, donc lemiroirdevenus.free.fr. Là vous pouvez écouter et réécouter toutes les émissions sont mises en podcast. Vous avez également la page Facebook, hein, où vous pouvez aimer et encore aimer. Aujourd'hui, j'étais très heureuse au niveau de la playlist de vous avoir fait entendre des artistes locaux. J'y tiens. Je vous dis au revoir, à bientôt, la semaine prochaine. Et surtout, aimez-vous. Le miroir de Vénus. Présenté par
Marilyn M.
Une émission sur
la femme
et ses tabous.
Je suis une femme.